You rock. Classique 21. Nobody knows. Laurent Riepi.
Laurent, de qui parle-t-on aujourd'hui ?
Eh bien, d'un groupe britannique qui a toujours donné cette impression de ne jamais se prendre au sérieux, tout en devenant l'un des groupes les plus populaires de son pays. Un groupe qui est associé à l'énergie, à l'humour, à la danse et à une joie extrêmement communicative et surtout une attitude totalement british, à savoir Madness.
Un groupe dont tout le monde connaît au moins quelques titres.
Ah, effectivement, le premier qui vient en tête, je pense que c'est souvent One Step Beyond.
Oui, c'est
a...
vrai.
Oh, bah oui, hein, il y a encore My Girl. Our House aussi, un peu plus tard, pas mal d'autres. Ce que l'on sait moins à propos de Madness, c'est que le groupe est né dans un endroit totalement improbable. Alors pas dans un studio, pas dans une salle de répétition, de concert, non. Mais bien dans l'arrière-salle d'un pub londonien, beaucoup, beaucoup trop petit pour eux. C'est un pub qui s'appelle le Dublin Castle et qui est situé à Camden, à Londres.
Oui, c'est un pub au sens strict du terme.
Exactement, un vrai pub anglais, Pierre, étroit, bruyant, enfumé, où les gens viennent avant tout pour boire, discuter, refaire le monde aussi. Et à la fin des années 70, le Dublin Castle n'est pas vraiment une salle de concert reconnue. C'est un lieu de passage avec une petite salle en arrière-plan où l'on joue certes parfois de la musique, mais sans véritable cadre, dans un environnement qui n'est pas, pour le moins qu'on puisse dire, qui n'est pas vraiment professionnel.
Oui, du coup, c'est pas le cadre idéal pour la naissance d'un futur groupe à succès.
Alors là, pas du tout. À leur début, Madness ne s'appelle d'ailleurs même pas encore Madness. Ils jouent sous le nom de The Invaders, en hommage à Prince Buster, leur grande référence dans le monde de la musique ska. Et à ce moment-là, ils n'ont absolument aucune stratégie, aucune vision de carrière. Ils jouent parce que c'est possible, parce qu'ils ont envie de s'amuser et qu'on leur laisse une place dans ce pub qui est ouvert un petit peu, parfois à des heures tardives.
Et le public n'est pas forcément venu pour eux.
À loin de là, le public du Dublin Castle est extrêmement mélangé. Dans la fin des années 70, on y croise des habitués, des punks, des skinheads, des voisins, des curieux aussi. Certains entrent, d'autres sortent. Beaucoup continuent à parler pendant que le groupe joue. Il n'y a pas de silence respectueux qu'on associe généralement à certains concerts.
Il faut donc essayer de capter l'attention immédiatement.
Ah oui, parce que sinon on disparaît très vite et c'est un autre groupe qui prend la relève. Et donc Madness comprend très vite que la technique pure dans ce genre de conditions ne sert absolument à rien. Ce qui fonctionne, c'est le rythme, l'énergie, le mouvement. Il faut que ça danse, il faut que ça provoque une réaction physique chez le public, sinon la musique est engloutie par des bruits de conversation et des pintes qu'on pose sur le bar.
Une vraie école de terrain finalement.
Ouais, une école assez rude aussi, mais extrêmement formatrice. Les concerts sont courts, parfois improvisés, parfois interrompus. Il arrive que le groupe s'arrête parce qu'une bière a été versée sur un ampli, parce que la salle est devenue incontrôlable ou simplement parce que le patron décide que tout simplement tout ça doit suffire.
Oui, et personne ne s'offusque.
Non, au contraire, Madness apprend à composer avec ça. Ils développent très tôt une forme d'autodérision. Ils comprennent que l'humour est une arme, qu'il faut sourire, exagérer, provoquer, presque jouer un rôle comme au théâtre. Ce n'est pas un masque qu'ils portent, c'est une manière de survivre dans un lieu où rien n'est jamais acquis.
Et c'est là que naît leur rapport très direct avec le public.
Ben oui, en fait, comme ils jouent serrés, collés les uns contre les autres, ils sont aussi parfois collés directement aux spectateurs. Il n'y a aucune distance, ce contact permanent forge cette identité scénique de Madness. Le groupe devient une sorte de collectif avant d'être un groupe professionnel.
Oui, et puis il faut bien le dire, financièrement au début, c'était pas vraiment le rêve non plus.
Ah, pas du tout, Pierre. Les cachets sont dérisoires et encore. Quand il y en a. Parfois, c'est quelques livres, parfois ils sont payés juste en bière. Et à ce moment-là, Madness ne vit pas de sa musique. Ils jouent parce que ça leur plaît, parce que l'ambiance est bonne et parce qu'ils sentent que quelque chose se passe avec le public.
Il n'y a donc aucune projection à long terme.
Aucune. Ils ne sont pas en train de se dire qu'ils sont en train de bâtir une carrière durable. Le Dublin Castle devient simplement une sorte de point de chute pour eux, un lieu de rendez-vous, presque une forme de laboratoire, un endroit où ils testent, où ils apprennent aussi et où ils se trompent.
Un laboratoire très bruyant.
Bruyant, humide, chaotique, mais incroyablement efficace. Le groupe apprend à être rapide, à être lisible, à capter l'attention en quelques secondes. Et tout ça fera leur efficacité redoutable sur scène quelques années plus tard.
Oui, en plus, ce lieu va traverser les époques.
Ah oui, parce que le Dublin Castle ne sera pas simplement le berceau de Madness des années plus tard. Une autre artiste, et non des moindres, y fera ses premières scènes, à savoir Amy Winehouse.
Même endroit, autre génération.
Ouais, le Dublin Castle reste reste ce lieu où les artistes viennent se confronter au réel sans protection, parfois devant un public assez distrait. Madness y apprend à faire danser. Amy Winehouse, elle, y affine sa présence face à des gens qui ne savent pas encore à ce moment-là qui elle est vraiment.
Et puis ce lieu est devenu complètement culte aujourd'hui.
Ah oui, hein, clairement. Et si vous me permettez, il est un petit peu resté dans son jus, si on peut dire ça ainsi. Quand vous entrez d'ailleurs, ce qui m'arrive assez régulièrement quand je suis de passage à Londres, eh bien, vous sentez vos pieds collés au sol. Hein, c'est un vrai pub. Il y a toujours des concerts très underground dans la petite salle, dans cette salle qui est qui a vu finalement le début de tant d'artistes dans la fin des années 70 et dans les années 90. Donc.
Et puis Laurent, vous m'avez dit hors antenne qu'il y a aussi un aspect un peu musée aussi. Hein.
C'est clair, hein, quand vous vous rendez au Dublin Castle à Londres, eh bien vous avez énormément de posters partout, des affiches d'anciens concerts de Madness qui sont dédicacés. Et vous avez un petit peu la même chose, un peu plus à droite, en ce qui concerne Amy Winehouse, donc des lieux qui sont chargés de mémoire, et un lieu qui reste un petit peu figé dans le temps, même s'il continue aujourd'hui par être visité par non seulement les locaux, les habitués, mais aussi des curieux du monde entier qui veulent voir où toute cette magie finalement a vu le jour.
Classique 21, Nobody Knows.
Retrouvez tous les épisodes de cette séquence sur l'app RTBF Actu.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.